Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. Et vous, autour de la table, comment ça va?
Comme un jour de tempête.
Bon, en tout cas, si ça ne va pas, je vous rappelle que Syllab vous propose de gagner une place pour un spectacle du festival Autre Mesure de Rennes, un festival célébrant la musique contemporaine, sa diversité et surtout son accessibilité pour toutes et tous. On vous propose donc de gagner une place pour le concert Stimmung du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymore à la chapelle du Conservatoire de Rennes le dimanche 25 janvier 2026 à 15h. Retour en 1968, en plein essor des mouvements libertaires, ce compositeur, figure de proue de l'avant-garde européenne, rentre d'un voyage en Californie et au Mexique. Il y a imaginé la partition de Stimmung pour 6 chanteurs et 6 microphones. Des onomatopées s'y entrelacent au nom chuchoté de divinité, dans un bain armorique de 6 bémols majeurs et une scénographie proche du feu de camp hippie. Pour découvrir ça, il suffit de rentrer le bon mot de passe, qui est une note de musique. Quelle note, Estelle ?
Si bémol majeur.
Yeah, je crois bien que c'est ça.
Sois plus confiante. Donc c'est bien si bémol majeur et c'est sur c-lab.fr. Avec ça, vous pouvez que aller mieux. Tout de suite, le flash d'Héloïse.
Vive émotion aujourd'hui à Minneapolis aux États-Unis. Une femme de 37 ans, Renee Nicole Good, a été tuée hier par un agent de la police fédérale de l'immigration, l'ICE, lors d'une opération en plein cœur de la ville. L'administration Trump affirme que l'agent a agi en légitime défense, une version vivement contestée par les autorités locales et par de nombreux manifestants et manifestantes. Estelle revient sur les différentes lectures de cet incident.
Les autorités locales, majoritairement démocrates, contestent fermement cette version et dénoncent de la propagande. Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, parle de conneries. Selon lui, il s'agit d'un agent qui a utilisé son pouvoir imprudemment, causant la mort d'une personne. Il affirme vouloir tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue le plus rapidement possible. Le FBI est chargé de l'enquête. Dans la foulée, Jacob Frey a demandé à la police de l'immigration de se casser. En soutien, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les lieux du drame. Des slogans hostiles à la police de l'immigration ont été scandés. Honte, ICE hors de Minnesota. Une manifestation s'est également tenue à New York. Sur les réseaux sociaux, plusieurs membres du Congrès ont qualifié la mort de Renee Nicole Good de meurtre et exigé des comptes des autorités fédérales. Pour l'administration Trump, c'est un acte de terrorisme intérieur relevant de la légitime défense. Je cite « Un agent de l'ICE craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public a fait usage de son arme », a déclaré le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué. La ministre, Christine Noem, affirme hier soir que la victime aurait suivi et entravé le travail de la police tout au long de la journée et aurait transformé son véhicule en armes dans l'intention de les tuer. Même si cela semble plus à une fuite sous panique qu'à une tentative de meurtre.
Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé alors, Estelle ?
L'incendie s'est produit hier matin sur Portland Avenue au cœur de Minneapolis. Là, 2000 agents de l'ICE sont mobilisés pour mener des opérations ciblées selon le ministère de la Sécurité intérieure. D'après les premières informations communiquées par les autorités fédérales, un SUV Honda Pilot aurait été utilisé comme une arme contre les forces de l'ordre. Le ministère affirme que la conductrice a tenté de renverser des agents. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent une scène différente. Une voiture immobilisée en travers de la chaussée sur une route enneigée, des agents de l'ICE qui s'en approchent, l'un d'eux tentant d'ouvrir la portière côté conducteur, le véhicule recule puis avance tout en frôlant un agent de devant, un policier ouvre alors le feu à 3 reprises. La voiture finit par percuter un autre véhicule stationné quelques mètres plus loin. La conductrice, Renée Nicole Good, succombe à ses blessures. Elle aurait été abattue à quelques mètres de son domicile alors qu'elle rentrait chez elle après avoir déposé son fils de 6 ans à l'école. Des peluches ont été retrouvées dans la portière de sa voiture, maculées de sang, un airbag ensanglanté.
Et qui est Renée Nicole Good ?
Citoyenne américaine, elle était mère de 3 enfants âgés de 15, 12 et 6 ans. Veuve depuis 2023, elle vivait à Minneapolis. Sa mère, Donna Ganger, a confirmé son identité au Minnesota Star Tribune. « C'était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Elle a pris soin des autres toute sa vie », a-t-elle confié. Son ex-mari l'a décrit auprès de l'agence Associated Press comme une chrétienne dévouée sans engagement militant. Tous deux affirment qu'elle n'était pas une activiste. Sur les réseaux sociaux, Renée Nicole Good se présentait comme une poète, écrivaine, épouse et mère. Une cagnotte en ligne ouverte pour soutenir ses proches a récolté plus de 300 000 dollars en quelques heures. Ce drame survient dans un climat déjà explosif. Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des piliers de sa politique intérieure. Depuis son retour à la Maison-Blanche, les opérations de l'ICE se sont multipliées, notamment dans des villes à majorité démocrate comme Chicago, Seattle ou Minneapolis. Une vaste campagne de recrutement lancée l'été dernier, environ 10 000 nouvelles recrues, a suscité des inquiétudes sur leur manque d'entraînement. Selon les données fédérales, plus de 70 millions de dollars ont été dépensés récemment par l'ICE en armes, munitions et équipements.
L'incident a eu lieu à quelques pâtés de maison des plus anciens marchés d'immigrants et à 1,5 km du lieu où George Floyd a été tué par la police en 2020. Il s'agit de la cinquième personne tuée lors d'opérations anti-immigration depuis 2024. La plupart des victimes sont mortes en tentant d'échapper à des contrôles. Le 12 septembre dernier, un homme avait été abattu à Chicago après avoir tenté de foncer en voiture sur des policiers. Sa gestion interne semble chaotique, mais Donald Trump ne s'arrête pas là. Le président américain persiste et signe dans son entreprise de déstabilisation de la coopération internationale. Il a signé cette nuit le retrait de son pays de 66 organisations internationales, climatiques notamment. Il a cependant annoncé vouloir recevoir son homologue colombien, Gustavo Petro, à la Maison-Blanche dans un futur proche. Les deux présidents se sont téléphonés pour s'expliquer sur leur désaccord suite à l'invasion américaine au Venezuela et à la capture du leader du pays d'Amérique latine, Nicolas Maduro. Sur la situation au Venezuela, il s'exprimait jusqu'ici du bout des lèvres et à voix très basse. Emmanuel Macron s'est finalement positionné un peu plus fermement sur le coup d'État américain. Il a en tout cas prononcé cette fois les termes « Les États-Unis s'affranchissent des règles internationales et se détournent progressivement de leurs alliés », a constaté le président lors de son discours annuel devant les ambassadeurs et ambassadrices de France aujourd'hui. Il a affirmé, ouvrez les guillemets, « refuser le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme et refuser la vassalisation ». Une déclaration survenant alors que Donald Trump maintient la pression sur le territoire européen du Groenland. Après l'ouragan Trump, une autre tempête s'apprête à faire des ravages. Son nom, Goretti. La moitié nord de la France se prépare à subir des rafales de plus de 160 km/h cette nuit. Le département de la Manche est placé en vigilance rouge dès ce soir. 25 autres départements sont, eux, placés en vigilance orange pour vent violent. C'est le cas de l'Ille-et-Vilaine. Cette vigilance orange y est d'ailleurs doublée d'une alerte vague submersion. À Rennes, les parcs publics et les cimetières sont fermés à cause de possibles chutes d'arbres ou de branches. Des retards et suppressions de trains sont également à prévoir. Des tracteurs au pied de l'Arc de Triomphe. Des blocages sont en cours à Paris et dans le sud de la France, au cœur de la colère des agriculteurs et agricultrices, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, mais aussi la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire par l'État. Le syndicat a rencontré cet après-midi la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Plus tôt dans la journée, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, s'est heurtée aux sifflets et huées avant d'être escortée par des agents de sécurité. Une centaine de véhicules de la coordination rurale sont entrés dans la capitale cette nuit, malgré des barrages et une interdiction préfectorale. Des annonces devraient être formulées ce soir par le gouvernement. Les agriculteurs et agricultrices, toujours eux, doivent-ils mettre de l'eau dans leur lait? La préfecture d'Ille-et-Vilaine tient en tout cas à apporter quelques précisions aujourd'hui dans le journal Ouest France. Oui, les camions transportant du lait bénéficiaient bien d'une dérogation automatique pour circuler en ce début de semaine. Les chutes de neige ayant entraîné une interdiction de circulation pour les poids lourds, la collecte a été fortement perturbée ces derniers jours, ce qui a amené les syndicats à s'indigner dans les médias locaux. La préfecture l'affirme, les véhicules transportant du lait pouvaient bien rouler sans justificatif supplémentaire. Problème, certaines fermes étaient probablement inaccessibles aux camions-citernes. Des exploitants et exploitantes qui sont décidément au centre de l'actualité aujourd'hui. À Rennes, ils et elles prévoient de se rassembler ce samedi. Un appel à manifester porté par la Confédération Paysanne. Le syndicat souhaite promouvoir la révision du SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine. Ce texte fixe des objectifs et des règles d'usage pour la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La FDSEA, autre syndicat lui opposé à cette réforme, s'était mobilisé en décembre dernier à Châteaubourg. Pour la Confédération Paysanne, la révision du SAGE est nécessaire face à une qualité de l'eau se dégradant dans le département. Le rendez-vous est fixé ce 10 janvier à 14h. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le SAGE Vilaine, je vous invite à réécouter l'émission du 12 novembre dernier. Nous y recevions en interview Samuel Dugas, co-porte-parole Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine, et Florian Denet, élu Jeunes Agriculteurs 35.
Eh bien, merci beaucoup Héloïse, et à très très bientôt pour un nouveau Flash.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Et c'est toi, Romane, qui est aux commandes de l'interview ce soir.
Aujourd'hui, nous recevons Anaëlle Toussard, habillée d'un pull en laine rouge et gris. Elle est danseuse, chorégraphe et créatrice du projet Brasier. Brasier, c'est une performance chorégraphique, une immersion dansée qui se nourrit de poésie féministe, de récits intimes et politiques. Anaëlle et son équipe seront accueillies en résidence de création à Rennes 2 du 26 janvier au 6 février. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement Brasier ?
Alors, déjà, merci beaucoup Radio Syllabe de m'accueillir aujourd'hui et de me faire venir parler de mon travail. Brasier, du coup, c'est une performance de danse contemporaine et de poésie féministe. Et elle a pour point de départ ma rencontre avec des textes. Donc, il y a d'abord celui de Lisette Lombé que j'ai lu dans Brûler, 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 qui est sorti en 2020. Et c'est la rencontre avec ce recueil-là, tout d'abord, qui m'a donné envie de les mettre en corps, en danse. Et du coup, la première fois, c'était pour un concours de danse et poésie avec de la vidéo. Donc, c'était un concours de vidéo initié par la Maison de la Poésie de Namur en Belgique. Et pour ce concours vidéo, j'ai eu envie du coup de danser le poème qui s'appelle « La famille » de Lisette Lombé. Et en fait, suite à ça, c'est Lisette qui est revenue vers moi. Parce que du coup, je l'ai d'abord contactée pour avoir l'autorisation de danser son poème. Et ensuite, celle qui est revenue vers moi, qui m'a invitée à Bruxelles pour le performer en 2021 à l'occasion de Brest Collective, qui était du coup le nom de soirée qu'elle a donné avec les Midis de la Poésie, qui est une association de poésie en Belgique aussi à Bruxelles. Et donc, pour cette dernière soirée de Brest Collective, elle m'a invitée à venir performer ce poème avec une autre poétesse qui avait aussi participé au concours. Et donc c'est à partir de cette performance live à Bruxelles que je me suis dit, tiens, est-ce que cette vidéo, cette participation à un concours vidéo peut pas devenir autre chose en fait qu'une performance de 10 minutes dans une galerie qui s'appelait That's What X Said à Bruxelles, une galerie féministe aussi. Et donc je me suis dit, je vais essayer de le pousser, que ça puisse devenir un spectacle avec d'autres textes. Et voilà. Et donc dans la performance, il y a aussi du coup les textes de Lisette Lombé, de Gloriane Saldois et de Marianne Lennevoyer.
Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces trois poétesses, brièvement ?
Ouais. Alors du coup, Lisette Lombé, elle est poétesse nationale en Belgique. Elle est slameuse belgo-congolaise. Et on la voit souvent à Rennes et puis en France parce qu'elle fait plusieurs tournées pour un concert qui s'appelle Brûler danser. Elle vient aussi souvent au Grand Cordel, donc peut-être que vous l'avez déjà croisée pour des ateliers d'écriture ou des scènes. Et du coup, il y a aussi Gloriane Saldois, qui, elle, est une poétesse qui est décédée maintenant, mais qui a été très importante dans la construction d'une littérature qui est à la fois féministe, Tex-Mex, donc entre les États-Unis et le Mexique, lesbienne. Et c'est une des premières personnes à avoir utilisé le terme queer tel qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il y a deux de ces textes qui sont présents dans la performance. Et ensuite, Marie-Hélène Voyer, c'est une professeure en littérature au Québec. Et le recueil que j'ai choisi, qui a inspiré la performance, parce que du coup, il y a un des poèmes qui est issu de ce recueil, c'est « Mourons des champs ». Et c'est du coup un recueil qui parle plutôt de la ruralité.
Et est-ce que ce sont des textes qui apaisent, qui dérangent, qui mettent en colère, qui réparent ?
Bah, je pense un peu tout ça à la fois. En fait, pour moi, ça a été un point de départ de les articuler aussi parce que c'est leur résonance et les affects qui suscitent en moi et les émotions qui font surgir, qui m'ont donné envie de les partager déjà, de les faire connaître et puis de les mettre en danse aussi, de pouvoir partager ensuite aussi avec les personnes ce que ça me fait traverser dans le corps et comment ça circule.
Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait d'un texte ?
Oui. J'ai sous les yeux le texte qui s'appelle « Une femme repose enterrée sous moi » de Gloriane Saldois. Une femme repose enterrée sous moi, inhumée depuis des siècles, présumée morte. Une femme repose enterrée sous moi. J'entends son doux murmure, le grésillement de sa peau de parchemin, en lutte contre les plis de son linceul. Ses yeux sont transpercés par des aiguilles, ses paupières, deux mites palpitantes. Une femme repose enterrée sous moi, effrayée de se réveiller, effrayée de rencontrer les ovales aux yeux absents des visages familiers, et choisir. Une femme repose, enterrée sous moi, rêvant qu'elle traverse les cornes de la lune et s'éveille au pied de son pont. Une femme repose, enterrée sous moi. Vêtue de noir, la lune répand sa lumière, une fragile peau de serpent qui effleure mon visage. Une femme repose, enterrée sous moi. J'entends son doux murmure, le grésillement de ses ailes de parchemin en lutte contre les plis de mon linceul. Une femme repose, enterrée sous moi. J'émerge couverte de boue. Des brindilles tombent de mes yeux. Je me dresse. Hume chaque fleur. Touche les quatre directions et les arbres en feu. Dans mes mains, ma vie.
Merci beaucoup pour cette lecture. Et comment on donne corps à des récits comme ça, intimes et politiques ?
En fait, c'est une recherche pour moi qui date déjà d'il y a 5 ans. Et je suis passée par beaucoup d'endroits différents, d'envie aussi de les mettre en corps, en danse. Et donc, au départ, j'étais très attachée, par exemple, à la musicalité ou à la rythmicité des textes. Et j'avais envie, au départ, de danser que ça. J'avais du mal à pas focus sur autre chose, en fait. Et petit à petit, ça s'est déplacé, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de rester seulement sur cette dimension-là. Et donc là, je suis en train de continuer à creuser l'écriture pour chacun des textes avec une approche différente. Et celle que je suis en train d'élaborer, de creuser, dernièrement, c'est justement pour le poème La famille, qui est le point de départ, que là je vous ai pas lu, mais qui est un peu central dans cette performance. Et c'est comment, à partir du texte qui est vraiment avec le cœur de ce texte, pour moi, c'est le souffle de la poétesse qu'on sent et qui crée une forme de dilatation dans le texte et des resserrements à certains endroits. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur une densité de l'air dans la danse, dans le mouvement. Et donc, c'est plus sur la qualité du texte comme matière, qu'est-ce qui peut devenir matière de danse qui va m'intéresser dans le corps pour après passer par l'improvisation, puis par l'écriture de gestes.
Et quelle forme de danse tu proposes dans Brasier ?
Est-ce que tu peux expliciter qu'est-ce que c'est une forme de danse pour toi ?
Est-ce que c'est de la danse contemporaine, classique ?
Alors, bah, effectivement, moi, je viens plutôt de la danse contemporaine. Donc, c'est... Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de formes différentes de danse contemporaine, de style, d'influence. Et c'est une danse aussi qui s'influence d'autres danses. Et donc, moi, mon parcours, ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé en hip-hop, en MJC, la danse à 16 ans, et j'ai découvert le contemporain assez tard, vers 20 ans. Du coup, c'est vrai que c'est nourri de plusieurs approches que moi, j'ai traversées. Et bah, ce qui est important pour moi, c'est la relation à la gravité, au sol. Enfin, il y a des fondamentaux qu'on retrouve aussi dans toutes les danses, finalement, qui, moi, me portent. Et après, comme je l'ai dit plus tôt, il y a aussi cette attention aux émotions et comment c'est elles qui peuvent devenir le point de départ et les sensations, les affects peuvent devenir le point de départ de la danse.
Et tu danses seule ? C'est une chorégraphie solo. Est-ce que, pourquoi ce choix ?
Alors, pourquoi ce choix ? C'est qu'au départ, déjà, c'était un solo pour le concours vidéo auquel j'ai participé. Et il se trouve que j'ai aussi travaillé certains des textes avec une autre danseuse qui s'appelle Cécile Taon, qui est basée à Nantes. Et à un moment, ça a pris une forme duo pour certains festivals, cette recherche-là. Et finalement, je suis revenue à une forme solo parce que le point de départ, c'était aussi ma relation intime avec ces textes et mon envie de la pousser dans certaines directions. Et j'ai senti que j'avais la nécessité de le faire seule à ce moment-là.
Et Brasier est conçu pour se donner en extérieur, dans l'espace public. Pourquoi ce choix ?
Alors ça, c'est aussi lié à, pour moi, la dimension d'accessibilité de la danse, que ce soit contemporain ou pas. En fait, pour moi, c'est important que, de plus en plus, on ait accès à des spectacles dans des lieux qui ne sont pas dédiés au spectacle vivant, et qu'on puisse y accéder sans avoir prévu, par exemple, d'aller à un spectacle, mais qu'on se retrouve à le croiser. Par exemple, là, il sera joué à la BU. Et pour moi, c'est important que ça puisse arriver dans notre quotidien sans que, ben voilà, on s'y attende, ou qu'on puisse s'y rendre de manière plus évidente qu'autrement. Et aussi, moi, c'est des endroits qui me connecte à la danse, parce que de toute façon, on n'attend pas toujours d'être dans un studio pour pouvoir danser. On peut danser partout, donc c'est, pour moi, c'est important.
Et tu interviendras ce mois-ci à Rennes 2 pour proposer des ateliers. Qu'est-ce que tu travailleras avec les participants et les participantes, et qu'est-ce que tu souhaites leur transmettre ?
Alors, je vais leur partager des choses du processus de création. Donc, à la fois des réflexions, des lectures, et ce par quoi je passe dans le corps, à la fois pour m'échauffer, pour continuer cette recherche et cette écriture chorégraphique, leur faire aussi traverser des improvisations qui sont importantes et structurantes pour moi dans ce travail. Et j'ai surtout aussi hâte de découvrir les textes qui, elles et eux, peuvent les porter. Parce que c'est, pour moi, c'est avant tout aussi du partage à cet endroit-là, de qu'est-ce qui nous meut, qu'est-ce qui nous met en mouvement.
Et je reviens sur Brasier. Quel message tu souhaites faire passer à travers ta chorégraphie ?
Bah, pour moi, c'est plus d'écoute, envers soi-même, envers les autres, envers ce qu'on ressent et aussi oser prendre la parole, oser parler en tant que soi-même, en tant qu'artiste, en tant que personne. Et c'est déjà énorme.
Bah merci beaucoup. On te retrouve aussi à Rennes 2 le jeudi 19 mars prochain pour te voir performer sur Brasier. Et pour les ateliers, c'est le 14, le 19 et le 21 janvier de 20h à 22h. Attention, les ateliers ont une jauge de 20 places et la présence est requise aux 3 séances. Comment on peut s'y inscrire à ces ateliers ?
Alors, c'est sur le site du service culturel, sur la billetterie.
Très bien. Et bah, merci beaucoup, Anaëlle, pour ta présence.
Merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Pas de chronique ce soir, sniff sniff, ça veut dire qu'on écoute directement le répondeur. J'espère qu'on aura un peu de chance et qu'il y aura quelque chose dedans.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Eh bien non, pas de chance, écoutez-nous, non, on vous écoute plutôt, on vous attend, laissez-nous un message, dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur, voilà, n'hésitez pas, 02 30 96 25 35, on diffusera votre message à la fin de cette émission. Merci Maud pour la technique et à lundi, dans 6h avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.